Annie, troisième partie, chapitre 12. La demi après 6 heures allait sonner au cartel des bureaux de l'Office cosmopolitain, et Barnabé, dans l'embrasure d'une fenêtre, guettait au loin sur le boulevard l'arrivée de l'omnibus du chemin de fer de Vincennes. À ce moment, le directeur, M. Chaberton, sortit de son cabinet accompagné d'un client, et dans leur cage, derrière leur grillage, tous les employés se plongèrent instantanément dans le travail. « Barnabé, guettez l'omnibus, » dit M. Chaberton. « On ne le voit pas encore. »« Puisque nous avons quelques minutes, » dit le client suppliant, « laissez-moi vous expliquer. » Mais M. Chaberton, sans écouter, alla à l'un des grillages. « Monsieur Spring, que vos patentes anglaises pour l'affaire Roux soient prêtes demain matin, » dit-il. « Elles le seront, monsieur. » Il s'adressa à un autre guichet. « Monsieur Morisset, vous préparerez demain, en arrivant, un état des frais ardent. »« Oui, monsieur. »«
Un point très important à noter, » continuait le client.
Mais Monsieur Chaberton, qui n'avait pas d'oreille pour ses recommandations de la dernière heure, continuait sa tournée devant les caches de ses employés.
« Monsieur Barinck, » dit-il, « votre bois est-il terminé ?»«
Il le sera dans une demi-heure. »«
Pas trop de sécheresse, je vous prie. Du chic. » « Soyons dans le mouvement !»
Barnabé fit un pas en avant.
« L'omnibus !» dit-il.
M. Chaberton jeta son pardessus sur son épaule, fit passer sa canne de dessous son bras dans sa main et se dirigea vers la sortie, suivi du client décidé à ne pas le lâcher. Une fois qu'il eut tiré la porte, un brouhaha s'éleva dans les bureaux et, immédiatement, Spring sortit d'un tiroir une lampe à alcool qu'il alluma.
« On voit que c'est aujourd'hui mardi, » dit Belle-Manière. « Voilà les saletés anglaises qui commencent. »«
On voit que c'est aujourd'hui comme tous les jours, » répondit Spring. « Les grossièretés de M. Belle-Manière continuent. »
Contrairement à la coutume, Belle-Manière ne se fâcha pas.
« Cela prouve, » dit-il d'un air bonhomme, « que les habitudes ne sont pas comme la vie. La vie est variée, les habitudes sont monotones. » Je suis grossier aujourd'hui comme hier, comme il y a 6 mois. Et Monsieur Barinck, au lieu de jouer au gentilhomme campagnard comme il y a 6 mois, dessine des bois pour l'Office cosmopolitain, où il a été bien heureux de retrouver sa place.
« Ne mêlez donc pas Monsieur Barinck à vos sornettes, » répliqua le caissier avec autorité.
« Ce que je dis là n'a rien de désagréable pour Monsieur Barinck, » continua Belle-Manière, sortant de sa cage. Au contraire. Et je proclame tout haut qu'un homme de 60 ans, qui se trouve tout à coup ruiné, et qui a l'énergie de se remettre au travail sans se plaindre, a mon estime. Si j'ai blagué autrefois Monsieur Barinck, je n'en ai aucune envie aujourd'hui. Et puisque l'occasion se présente de lui dire ce que je pense, je le dis. Voilà comme je suis, moi. Je dis ce que je pense, tout ce que je pense, franchement. Et je me fiche de ceux qui ne sont pas contents. Vous entendez, monsieur Morisset ? Je m'en fiche, je m'en contre-fiche. » Il criait cela devant la cage du caissier d'un air provocateur. La porte d'entrée, en s'ouvrant, le fit taire. « Mr. Barinck ? » dit une voix à l'accent étranger. « Il est ici, » répondit Barnabé en amenant celui qui venait d'entrer devant le grillage de Barinck. « Do you speak English ?»
« Monsieur Spring !» appela Barinck.
À regret, Monsieur Spring souffla sa lampe et s'approcha. Alors un dialogue en anglais s'engagea entre lui et l'étranger.
« Ce gentleman, » traduisit Spring, « dit qu'il a vu au salon 2 tableaux signés Annie, qui lui ont plu et qu'il est disposé à les acheter. Ayant trouvé votre adresse au Cosmopolitain dans le livret, il désire savoir le prix de ces tableaux.
« 1 000 francs, » dit Barinck.
« Ce gentleman dit, » continua Spring, « qu'il les prend tous les deux pour 1 500 francs, si vous voulez,
et que si Madame Annie a d'autres tableaux du même genre, c'est-à-dire représentant des paysages du même pays, dans la même coloration claire, il les achètera peut-être. Il demande à les voir.
« Expliquez à ce gentleman, répondit Barinck, qu'il peut venir demain et après-demain à Montmartre, rue de l'Abreuvoir, et donnez-lui l'itinéraire à suivre pour arriver rue de l'Abreuvoir. »
Sans en demander davantage, l'amateur tendit sa carte à Spring et s'en alla. Charles Halifax, 75, Three Mountain Street, Boston. Barinck n'eut pas le temps de recevoir les félicitations de ses collègues, pressé qu'il était d'achever son bois pour porter cette bonne nouvelle rue de l'Abreuvoir. Lorsqu'il entra dans l'atelier où sa femme et sa fille étaient réunies, Annie vit tout de suite à sa physionomie qu'il était arrivé quelque chose d'heureux. « Qu'est-ce qu'il y a ? » demanda-t-elle. Il raconta la visite de l'Américain.
« Hé hé ! » dit Annie.
« Hé hé ! » répondit Barinck comme un écho.
« 1500 francs !»
Et, se regardant, ils se mirent à rire l'un et l'autre.
« Hé hé ! Hé hé ! »
Madame Barinck n'avait pas pris part à cette scène d'allégresse. « Je vous admire de pouvoir rire, » dit-elle.
« Mais il me semble qu'il y a de quoi, » dit Barinck.
« Est-ce que tu n'es pas heureuse de ce succès pour Ourteau ?» dit Annie.
« Qu'on ne me parle jamais d'Ourteau !»
s'écria Madame Barinck.
« Sois donc plus juste, maman. C'est à Ourteau que je dois un mari que j'aime. C'est Ourteau qui m'a appris à voir. Sans Ourteau, je me fabriquerai de jolies robes en papier pour pêcher un mari que je ne trouverai pas. Et sans Ourteau, je continuerai à peindre des tableaux d'après la méthode de l'atelier que les Américains n'achèteraient pas. Si je suis heureuse, si j'ai aux mains un outil qui nous fera tous vivre en attendant que Sixte revienne glorieux, cela ne vaut-il pas la fortune ?